le groupe anglais The Corgis, qui a marqué le monde de la musique avec cette chanson « Everybody's got to learn sometime », extrait de leur deuxième album. Il y a eu beaucoup de reprises de cette chanson, notamment la version de Beck, qui figure sur la bande originale du film « Eternal Sunshine of a Spotless Mind », magnifique film de Charlie Kaufman et Michel Gondry, avec au casting Jim Carrey et Kate Winslet. Un film autour de l'amour, de la souffrance, de l'importance des souvenirs et puis des moyens que l'on met en place pour se préserver et les préserver, ces souvenirs. Alors justement, la vie, ses joies, ses peines, ses épreuves, tout ça est au cœur de la Libre Antenne, 7 jours sur 7, sur Europe 1, de 22h à 1h du matin. Et on va retrouver tout de suite Valérie Darmon en nouvelle diffusion. Bonne nuit avec nous.
Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Valérie.
Merci d'être avec nous ce soir à 0h37 exactement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? De quoi voulez-vous nous parler ce soir, Sylvie?
Mais écoutez, j'aimerais en fait vous livrer mon témoignage sur un mal dont je souffre depuis maintenant 6 ans. Donc un mal qui hante mes nuits et aussi plus récemment mes journées. En fait, je suis insomniaque chronique depuis 6 ans.
Ouh là là.
Donc... Oui.
Ah oui, alors ça c'est vraiment, vraiment un handicap. Hein.
Oui, c'est un très gros handicap, je dirais même une descente aux enfers.
Progressive ou pas?
Oui, progressive. Donc ça a débuté en fait, comme je vous le disais, il y a 6 ans. Donc au départ c'était des troubles mineurs, du sommeil, des difficultés d'endormissement. Donc j'ai testé en fait tout ce qu'on peut trouver en libre accès en pharmacie, hein, à savoir tout ce qui est homéopathie, etc. Donc sans réel succès, donc j'ai attendu quelques mois avant de consulter donc mon médecin traitant, donc qui m'a donné directement des somnifères, donc des benzodiazépines. Donc on a essayé une multitude d'ailleurs de benzodiazépines qui ne m'ont pas convenu du tout, qui me procuraient beaucoup d'effets secondaires. Mmh. Et donc on en a trouvé un en fait qui est à la fois arrivé à me faire dormir sans me procurer d'effets secondaires difficiles. Donc c'était le Nuctalon.
Au bout de combien de temps vous l'avez trouvé le Nuctalon? Pour qu'il convienne.
Donc au bout de 6 à 7 mois. D'accord. Donc en parallèle, en fait, mon médecin m'avait proposé donc de faire une polysomnigraphie, donc du sommeil que j'ai réalisé donc sur Lyme, hein, étant donné que j'habite dans le Pas-de-Calais. Donc à l'époque, comme je prenais récemment en fait le Nuctalon, la polysomnigraphie n'a rien montré d'alarmant. 6 heures de sommeil avec des micro-réveils, mais bon, pas d'apnée du sommeil, pas de syndrome des jambes sans repos. Donc j'ai vu une neurologue ensuite qui m'a prescrit des citaloprames. Les choses se sont plus ou moins stabilisées, je vais dire, pendant plusieurs mois, hein, le Nuctalon faisant encore ses effets.
Donc 6 heures de sommeil à peu près par nuit.
Oui, 6 heures de sommeil à peu près par nuit.
Avec des micro-réveils.
Oui, avec des micro-réveils. Et bref, les mois passant, mon sommeil était de très mauvaise qualité, en fait. Je commençais vraiment à avoir beaucoup de difficultés à m'endormir. Donc mon médecin m'a prescrit de la mélatonine, en fait dosée à 4 mg, préparation magistrale, ensuite à 6 mg. Donc la mélatonine à laquelle je n'étais pas réactive.
Et le GABA, vous avez tenté ou pas?
Le
GABA, c'est une plante aussi qui permet des endormissements faciles.
Non.
Et d'ailleurs qui favorise aussi les beaux rêves. Et on le prend à 17h, c'est un complément alimentaire qui est vendu sans ordonnance. C'est une plante et vous prenez du GABA à 17h tous les jours et ça favorise l'endormissement.
D'accord, mais c'est bon à savoir, on ne m'en a jamais parlé. Donc, j'ai essayé tout ce qui est valériane, passiflore, etc. Bon, bref. Et devant un petit peu le désarroi de mon médecin qui m'a dit « Écoutez, avec votre sommeil, je ne peux plus rien pour vous. » je vais vous envoyer voir une psychiatre. Et donc là, ça a été vraiment la descente aux enfers. Donc, j'ai consulté la psychiatre en juin dernier. Et donc là, en fait, elle a décidé de me passer sous antidépresseur. Donc, à visée sédative, hypnotique. Et donc là, les antidépresseurs, en fait, que je n'ai pas du tout toléré, en fait. Donc, il y a un antidépresseur.
Mais Sylvie, pardonnez-moi de vous interrompre.
Oui.
Mais avant de vous envoyer chez la psychiatre, votre généraliste ne vous a pas proposé de tester l'hypnose ou la sophro ou la méditation
J'ai tout testé. Ça, j'ai oublié de vous en parler. Mais bien sûr, pendant ce laps de temps-là, en fait, j'ai testé l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste.
Voilà.
La sophrologie, la méditation, la réflexologie.
Et un travail psy, parce que souvent, l'insomnie est aussi à un blocage psychologique. Hein.
Ah oui, bien sûr, j'ai consulté aussi beaucoup de psychologues où on a pu déterminer la cause, en fait, de cette insomnie, en fait. Hein.
Qui était liée à une séparation ou un problème relationnel.
Oui, qui était promis un problème de couple.
Voilà, c'est ça, c'est souvent en lien. Et quand vous traitez donc le problème de couple, en thérapie par exemple, l'insomnie n'a pas diminué ?
Non, du tout. Non, du tout. En fait, je pense que les médicaments en fait, que j'ai commencé à prendre sur une longue durée, et on m'a bien expliqué qu'en prenant ce genre de médicaments, les benzodiazépines, souvent... On nous dit bien qu'il faut prendre ça de courte durée, 4 à 6 semaines. Et là, comme je les ai pris sur du long terme, on m'a clairement dit que de toute façon, un sommeil normal, réparateur, je n'en aurais plus. Puisque finalement, ces médicaments, alors certes, ils sont donnés pour nous faire dormir, mais au final, je pense qu'ils endommagent en fait le cerveau, ce qui engendre...
Je pense que la physiologie de mon sommeil.
Oui, c'est ce qui s'est passé. Une mémoire de concentration, parce que j'ai voulu entreprendre une reconversion professionnelle là en septembre 2023. Donc une formation dans le social. Et malheureusement, en fait, j'ai dû abandonner cette formation au bout de 4 mois. Parce que je me suis rendu compte que j'avais des gros soucis de concentration, de mémorisation. Donc c'est vrai qu'en fait, les problèmes de sommeil en fait entraînent aussi forcément une fatigue physique, mais aussi une fatigue psychologique et des dommages collatéraux en fait qui altèrent la vie tout simplement. En fait là, j'ai l'impression de survivre en fait et pas de vivre hein, parce que en fait maintenant j'en suis arrivée à un point où là je ne dors plus la nuit du tout, donc je m'endors vers 4 heures le matin pour me réveiller à 6 heures. Ensuite je descends, je bois le café, je prends mon petit déjeuner, je retourne en fait me coucher. Donc là où j'ai la télé, je regarde mon téléphone, j'essaie de trouver le sommeil. Je me rendors en fait souvent pendant 2 heures. À nouveau, je me réveille, puis je me rendors jusqu'à 11h30.
Faites des siestes répétitives. Oui, c'est ça. Vous faites des siestes répétitives. Vous travaillez pas ?
Non. Je peux plus en fait.
Oui, c'est ça. À cause de l'insomnie, vous travaillez plus.
Oui, à cause de l'insomnie en fait. Et je suis un petit peu désespérée et je me demande si certains auditeurs en fait vivent une situation similaire à la mienne, parce que c'est vrai que souvent je consulte des forums en fait sur le stress, l'insomnie, etc. Et je me retrouve pas vraiment en fait dans les posts en fait que je peux lire, où souvent c'est des insomnies passagères, etc., qui sont liées à des angoisses et qui sont résolues en fait en quelques semaines. Et en fait moi j'ai l'impression d'être vraiment je me sens seule en fait, seule devant mon souci, parce que j'ai l'impression d'être un cobaye aussi vis-à-vis du corps médical, où voilà, quand on me donne des antidépresseurs et on me dit bon, écoutez, en première intention, ce n'est pas pour traiter l'insomnie, hein, c'est pour la schizophrénie, etc. Mais ça peut avoir des effets sédatifs, hypnotiques, sauf que le ça peut, j'en ai assez, quoi. J'aimerais vraiment trouver
une solution, en fait.
Un médicament, une solution, une molécule, en fait, qui me corresponde, qui me fasse dormir et qui fasse en sorte que je puisse avoir une vie normale, quoi.
Ah oui, parce qu'en plus, il y a une éviction sociale qui se fait aussi, parce que vous ne pouvez pas sortir, vous êtes épuisé.
Oui, voilà, exactement.
Vous vivez à l'envers, en fait. Hein,
je vis à l'envers, là, je vis complètement décalée.
C'est ça. Vous avez des enfants, Sylvie ?
J'ai un fils de bientôt 20 ans.
D'accord, oui. Donc
qui vit
se
avec
gère.
Moi, donc je vis seule avec lui. Oui.
Voilà, et il se gère complètement. Non, parce que si vous avez des enfants,
il ne se gère pas.
Voilà. Ah, il ne se gère pas ?
Bon, il ne se gère pas, non. Il n'est pas. Bon, il est étudiant, hein. Il va à l'université.
Oui,
etc.
Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas à vous lever le matin pour lui faire le petit déjeuner, donner le bain le soir. C'est
non,
ça que je voulais dire. Voilà.
Non, non.
Parce que les enfants bas âge.
Il y a d'autres soucis inhérents à,
voilà, à son âge, mais ce n'est pas celui de s'occuper. Au sens non. Préparer les repas, il n'y a pas ces contraintes-là, en fait. Hein. Alors, d'abord, je vais lancer un appel aux auditeurs, aux auditrices qui vivent peut-être des insomnies et qui peuvent évidemment nous appeler au 01 80 20 39 21, soit ce soir, soit demain. Qui peuvent nous laisser aussi des messages au 7 39 21. Ça, c'est la première chose. On a coutume de dire aussi, souvent, aux personnes insomniaques de faire la nuit. Des choses qu'elles détestent faire, de manière à envoyer à votre inconscient le message que s'il reste réveillé, c'est pour faire des choses qu'il n'a pas du tout envie de faire, qu'il n'aime pas. Exemple, récurer les toilettes. C'est en général un truc qu'on n'aime pas faire.
Ah, effectivement.
Donc si vous, au moment d'aller vous coucher, vous voyez que vous tournez dans votre lit puisque vous trouvez pas le sommeil et en plus c'est source de stress parce qu'on sait on sait très bien que de toute façon le fait de quand on est insomniaque le fait d'aller se coucher de ne pas trouver le sommeil est déjà source de stress donc on appréhende sa nuit donc vous vous couchez etc et vous vous relevez vous vous obligez à vous relever parce que des fois on reste au lit on écoute de la musique ou de la méditation on fait de la cohérence cardiaque j'imagine que vous avez essayé bon alors le truc c'est de se relever et d'aller faire quelque chose qu'on déteste. Vous allez voir qu'à un moment donné, votre inconscient, il n'aura plus du tout envie d'aller faire le truc que vous détestez.
D'accord.
C'est-à-dire, par exemple, là, il fait froid, vous sortez dans le jardin, si vous avez un jardin, ou sur la terrasse, et vous allez rempoter des pots. Bon, on n'a pas du tout envie de faire ça à 1h30 du matin.
D'accord, mais ça m'est déjà arrivé en pleine nuit de repasser, par exemple.
Ah bah oui, de toute façon, quand on a insomniaque, on rentabilise.
Le temps est tellement long.
Voilà, qu'il faut bien s'occuper. Une fois qu'on a regardé des séries, la télé... Je dis on parce que, vous savez, les journalistes qui ont été beaucoup matinaliers, ce qui a été mon cas... C'est-à-dire qu'on se lève, il est 2h du matin pour venir faire les matinales. On se couche, il est comme nous, très tard le soir. On est rentré chez nous, là, toute l'équipe, vers 1h30 du matin. On ne trouve pas le sommeil avant 2h30. Bon, voilà. Et quand on a fait les matins, puis quand on a fait les soirs, et puis quand on a fait les week-ends, etc., on devient insomniaque. Hein. C'est très, très rare qu'un journaliste en télé ou en radio qui se lève très, très tôt n'ait pas des problèmes de sommeil. Donc, on connaît bien ce processus. On a tout essayé aussi. Donc le fait d'aller contrarier son inconscient en lui faisant faire des trucs qu'il n'a pas du tout envie de faire, croyez-moi qu'après il va choisir le moindre mal, il va se dire je vais dormir.
D'accord. Alors, on n'a jamais parlé de cette technique.
Vous pouvez l'essayer en tous les cas. L'autre chose, c'est que votre fils, par exemple, le soir, peut vous dire surtout dors mal. Je te souhaite une mauvaise nuit. C'est pareil, c'est comme une injonction. Votre inconscient va capter le « je te souhaite une mauvaise nuit » et lui, il ne va pas du tout être content de ça. Donc, il va vous faire passer une bonne nuit. C'est exactement la même chose. On le prend à rebrousse-poil. Alors, c'est des petites bricoles, mais parfois, ça peut fonctionner.
Ça peut engendrer peut-être un déclic. Et
Voilà. Après,
de toute façon, je suis preneuse de tout conseil, de tout... qui pourrait m'aider. Quoi.
Alors, on a un monsieur qui vient de nous dire « Je suis insomniaque, j'ai trouvé la solution, je suis devenu agent de sécurité mobile de nuit et je dors le jour. » Oui, ça c'est aussi une solution, c'est-à-dire, tant qu'à faire, travailler la nuit et dormir le jour. Parce qu'en fait, dans un premier temps, petit à petit, on peut retrouver le sommeil. Donc moi, alors, on a aussi...
Mais il faudrait que j'arrive à me séparer de toute cette addiction aux médicaments, parce que alors, bien sûr, je prends des médicaments
c'est ça,
la journée.
C'est ça aussi la problématique, c'est votre dépendance.
Bah oui, la problématique, c'est ça, c'est la dépendance aux médicaments.
Évidemment. Alors, on a quelqu'un d'autre qui vient de laisser son numéro de téléphone qu'on, Juliette ou Nicolas va vous donner dès qu'on aura raccroché ensemble. Sylvie a-t-elle fait des analyses spécifiques pour doser son taux de magnésium ionisé ? Si elle le souhaite, vous pouvez lui transmettre mes coordonnées. Donc moi, j'ai envie de vous dire aussi d'aller regarder du côté de la médecine intégrative.
Oui.
Donc notez-le, médecine intégrative. Vous êtes en région parisienne ?
Non, j'habite dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais.
D'accord. Bon, peut-être que du côté de Lille, des choses comme ça, il doit y avoir. C'est une médecine qui prend en considération absolument l'ensemble de l'être, hein, et tout est en lien. Donc surtout sur les dosages hormonaux, sur enfin voilà, c'est des analyses qui sont très 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 fouillées. Donc on va vous transmettre les coordonnées de Michel. Essayez d'aller faire des choses vraiment que vous détestez. Faites-vous le listing de tous les trucs que vous aimez pas. Comme ça, l'inconscient, il va se dire, je préfère encore dormir. Hein, ça peut parfois fonctionner. Le petit truc que je vous ai donné, c'est un petit truc d'hypnose, hein, puisque je suis hypnothérapeute aussi, en plus d'être praticienne EMDR. Et surtout, aller chercher la source. Parce que là aussi, l'insomnie, c'est un symptôme. Bon, aujourd'hui, vous êtes enfermé dans un système de dépendance. Hein, aussi.
Oui, de dépendance aux médicaments. Oui.
Aux médicaments. Mais il y a quand même à la base de tout ça une source psychologique.
Ah mais la source, la ressource a été clairement définie. C'est quelque chose en fait que j'ai vécu il y a 8 ans en fait avec mon ex-conjoint. Tout se passait très bien. On devait se marier et puis notre mariage a été annulé parce que en fait ses parents, lui avait déjà été marié une première fois, moi jamais. Donc ses parents ont très mal pris, en fait, n'ont pas accepté le fait que son fils pouvait de nouveau se marier au risque d'un hypothétique divorce. Donc le mariage a été annulé, ben, moi j'avais tout préparé de mon côté, etc. Et donc il y a eu ça, et puis dans la foulée, quelques mois plus tard, en fait, je suis tombée enceinte. Et donc j'ai perdu l'enfant à 4 mois de grossesse. Et en fait, toutes ces émotions, en fait, je les ai enfouies, je les ai gardées en moi. Les parents de mon ex-conjoint, je suis continuée à les voir, à aller les voir sans absolument rien leur dire, alors qu'ils avaient eu un comportement complètement abject vis-à-vis de moi. Donc voilà, je sais très bien, en fait, d'où viennent mes insomnies.
Oui. Alors, est-ce que ça a été traité d'un point de vue, par exemple, bon, moi, évidemment, c'est toujours la même chose. Hein, moi, j'adore cet outil. Hein, ça a été traité, par exemple, avec de l'EMDR ou en...
Non.
Bah, peut-être tentez-le, parce que l'EMDR, c'est quand même le marteau-piqueur pour aller traiter les traumas. Parce que le conversationnel, c'est bien. Hein, je suis aussi très favorable à la psychanalyse. Voire à l'analyse, enfin voilà.
De psychologue.
Mais, voilà. Mais si c'est pour faire du face-à-face et rabâcher tout le temps les mêmes choses...
Oui, voilà, j'en ai eu marre à un moment donné.
Voilà, c'est logique. Voilà. Et vous avez envie de résultats plus ou moins rapides, ce qui est logique, puisque là, vous vous enfoncez dans des insomnies, à n'en plus pouvoir, du fait que, et ça a des répercussions sur votre travail et votre vie sociale, ce qui est logique. Donc au moins, le MDR, vous allez soigner la cause directement. C'est le cerveau qui retraite l'information. Il met 6 mois... à retraiter complètement l'information. Donc, au plus rapide, c'est 6 mois, les résultats, si vous tombez sur un bon praticien. Donc, tentez-le. On a aussi un autre auditeur qui réagit, qui dit « Le CBD agit très bien pour s'endormir et éviter les réveils. Contre le stress aussi, pas d'effet désagréable. » Ça marche. C'est vrai que ça marche très bien.
J'ai pensé au CBD, mais j'ai eu en fait une crainte par rapport justement aux interactions avec les médicaments, les antidépresseurs et les somnifères en fait que je prends. Mais j'y ai pensé.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'interaction. Encore une fois, je ne suis pas médecin, donc posez quand même la question à votre praticien de santé ou psychiatre.
Mon médecin, j'en ai parlé, il ne sait absolument pas me dire. Je ne m'y connais absolument pas dans le CBD, ma psychiatre non plus. J'en ai déjà parlé, elle m'a dit ben, vous pouvez tenter, mais sans pour autant, en fait, me. J'ai demandé s'il y avait des interactions. Elle était incapable de me répondre. Donc, je n'ai pas osé encore le CBD, mais j'y ai pensé.
Alors, le CBD, c'est vrai que ça marche bien. Je remercie d'ailleurs cet auditeur de nous avoir mis sur la piste.
Oui.
C'est vrai que ça marche très très bien, le CBD aussi, d'abord pour se détendre. Ce qui serait bien, c'est que vous ayez un avis médical quand même, de quelqu'un d'éclairé. Ce serait quand même le minimum. Donc,
De quelqu'un d'éclairé, mais justement.
Oui, c'est ça. Alors, si votre psychiatre est médecin, elle ne sait pas vous répondre, que le médecin spécialiste du sommeil ne sait pas vous répondre non plus. Il y a des très très bonnes consultations sur le sommeil dans les hôpitaux parisiens. Je pourrais vous donner quelques contacts si vous le souhaitez.
Oui, bah après, oui, moi je peux très bien me déplacer sur Paris.
Mais
on y est vite.
Alors, le CBD, ou alors demander sur des forums aussi, peut-être. Mais moi je pense que le CBD, le MDR, les petites bricoles que je vous ai dites, ça peut commencer peut-être à commencer à dégommer en fait cette insomnie qui se maintient. En tout cas, on peut en venir à bout. Je vous assure qu'on peut en venir à bout.
Parce que moi, c'est ce que je me suis dit. Je pense qu'il n'y a pas de solution en fait. C'est vrai que quelque part, je m'étais quelque peu résignée à me dire, je pense que il n'y a pas de solution. Je vais survivre. Je ne voyais pas de lumière au bout du tunnel, quoi. Parce qu'après avoir essayé tous ces traitements, voir des médecins et des psychiatres qui, eux non plus, ne savent pas trop vers quoi.
Essayez ce qui est complémentaire. Par exemple, là, le taux de. C'est vrai que doser le taux de magnésium ionisé, c'est une bonne piste. On va vous donner le contact de Michel.
D'accord.
Et surtout la médecine intégrative. Je vais vous donner des contacts aussi en antenne. Vous les contacterez, vous verrez ce qu'il en est. C'est une autre approche. Ça vaut le coup parce que je sais qu'on est quand même on est noyé quand on est insomniaque. On est noyé dans cette insomnie. Le moment d'aller au lit devient vraiment un moment angoissant et l'angoisse rajoute à l'angoisse et qui rajoute à l'insomnie. Donc, on va vous donner les contacts hors antenne, Sylvie, dans quelques instants. Et puis, je vous propose de nous rappeler dans quelques semaines pour nous dire si ça a fonctionné ou pas. Vous voulez bien ?
Très bien. Oui, bien sûr, avec plaisir.
Écoutez, merci d'avoir parlé de ce sujet. Et si demain, on a aussi des réactions au standard, au 01 80 20 39 21, on vous fait suivre les coordonnées.
D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup de vos conseils. Votre écoute et votre bienveillance.
Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup. Et au moins l'avantage c'est que vous nous écoutez. Merci beaucoup.
Oui.
Merci.
La libre antenne d'Europe 1. Valérie Darmon accompagne vos nuits.
Des chansons, des filles, beaucoup de vers et de nuits. Telles étaient nos heures, telles étaient nos vies. Fut-il adolescent, tout nous était permis. Roi de pacotille, prince démuni. On est riche que de ses amis, c'est dit.
Bonsoir Alissa.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Quelle voix enjouée, ça fait du bien en ce vendredi soir.
Ben oui, c'est le printemps, on sent le début du printemps qui arrive.
Oui,
donc je suis ravie d'être parmi vous ce soir.
Merci, merci beaucoup. D'autant que vous voulez nous parler d'une très belle expérience, parce que, alors vous, vous n'êtes pas tellement raccord météo, parce que d'habitude, vous ramassez les feuilles mortes dans les rues de Paris.
C'est exactement.
Ça donc, c'est plutôt...
donc là, c'est pas tout à fait ma saison. Oui.
Voilà, c'est pas votre saison. Alors pour faire quoi les feuilles mortes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Alissa?
Alors, moi, je suis plasticienne et designer végétale et je travaille avec les feuilles mortes de Paris. Donc en fait, j'habite à Paris et l'idée, c'est de venir ramasser ces feuilles qui, en ville, ben, on n'en fait pas grand-chose parce que elles vont venir tomber sur le béton. Dans la nature, c'est vrai que ces feuilles, elles ont leur place, elles vont venir se décomposer, elles vont venir nourrir les sols. Alors qu'en ville, on n'en fait rien. Tous les ans, d'ailleurs, c'est 4500 tonnes de feuilles qui sont ramassées dans Paris. Donc, c'est assez énorme. Et moi, je me suis dit, cette matière-là, c'est une matière qui est naturelle, locale et disponible. Pourquoi pas en faire quelque chose et en faire des œuvres d'art avec et créer avec cette matière-là.
Alors vous, vous incarnez parfaitement le « rien ne se perd, tout se transforme ».
Exactement.
Voilà, c'est ça. Donc vous transformez, comment vous faites? Alors vous allez dans les rues de Paris où j'imagine que vous allez récupérer une partie de ces 4500 tonnes de feuilles récupérées par la collectivité. Et ensuite, d'abord comment on les emmène, comment on les trimballe en fait, ces feuilles? Et qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez un immense entrepôt dans lequel vous travaillez? Comment ça marche?
Non. Alors pas du tout. Donc déjà, moi je ne m'attaque pas à toutes ces 4500 tonnes de feuilles. Ça reste vraiment une démarche qui est très artisanale. Et donc, c'est un long, long processus. Il faut avoir beaucoup de patience. Et donc, en fait, dès que la saison arrive et que les feuilles commencent à tomber, et ben, tout simplement, dans mon quartier principalement, je pars à la chasse aux feuilles. Et donc, je vais les récolter. Donc, c'est une à une. Pour chaque feuille, il faut se baisser, les ramasser et donc à peu près aussi les trier, prendre juste les belles feuilles. Parce qu'en fait, si la ville de Paris, quand elle aspire toutes ces feuilles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets qui viennent aussi avec. Donc, je fais ça à la main, un à un. Et donc, je pars faire mon petit stock. Je pars à la recherche des belles sortes de feuilles, à la recherche de nouveautés. Et donc, je me fais mon stock pour pouvoir après venir... travailler ces feuilles. Et là, encore une fois, c'est très long parce que chaque feuille est triée, équeutée, un à un, par sorte, par couleur. Et donc, c'est là qu'a démarré ma récolte, quoi.
Ah oui, alors vous ne partez pas à la chasse aux œufs, vous partez à la chasse aux feuilles. Vous ramassez tout type de feuilles à partir du moment où la feuille vous appelle. C'est un petit peu ça, le processus?
Exactement, exactement. Alors, il faut savoir que dans Paris, il y a quand même principalement beaucoup de platanes. Il y a du platane, de l'érable, du polonia. Mais donc, en fait, je prends vraiment tout ce qui vient parce que c'est une matière qui est tellement belle, tellement inspirante. Et en fait, je trouve ça dommage. On marche dessus, on n'y porte pas forcément beaucoup d'intérêt. Et on a plutôt envie que ça disparaisse, en fait, en automne. On a peur que ça brûle ou que... Enfin, de tomber ou de...
De glisser.
Ouais. Et donc, on n'y porte pas beaucoup d'intérêt. Et donc, c'est pour ça que je me dis qu'il faudrait redonner vie à cette matière.
Alors, avant de voir comment vous redonnez vie à cette matière, est-ce que ça vous arrive aussi de partir à la campagne et de ramasser des feuilles à la campagne ou même à l'étranger? Parce qu'on peut trouver, je ne sais pas, des baobabs, des feuilles de bananier. Enfin, on peut enrichir peut-être la récolte, justement, avec d'autres formes de feuilles, non?
Alors, en effet, c'est très intéressant et il existe de merveilleuses feuilles à l'étranger. Mais c'est vrai que moi, l'idée quand même principale, c'est de travailler avec une matière qui est locale. Et donc, en fait, comme j'ai la matière qui est disponible et en bas de chez moi, c'est de faire quand même avec ce que j'ai chez moi. Et pour ce qui est de la campagne, Ça peut m'arriver si pour certains projets en particulier, ou s'il y a vraiment des très belles espèces de feuilles qui m'appellent. Mais encore une fois, l'idée, c'est de laisser vraiment les feuilles dans la nature, de laisser le cycle de la nature faire les choses. Et le cycle est très bien, et c'est pas de venir extraire les feuilles d'extraire la nature de son milieu, mais de vraiment juste laisser le cycle se faire. Et donc, dans la nature, les feuilles ont vraiment leur place dans tout ce système. Ça va venir nourrir les sols. Et donc, de laisser cette matière-là là où elle est. En ville, c'est encore une autre problématique. Alors, il y a quelques petites opérations aussi qui commencent à être mises en place. Et donc, en faire du compost dans certains parcs et jardins. Mais ça reste quand même assez pollué en ville. Donc, voilà.
Oui, anecdotique en fait encore. Vous êtes dans quel quartier, Alissa, pour ramasser ces feuilles ?
Dans le 10e arrondissement de Paris.
D'accord. Et vous avez grandi donc à Paris, vous n'avez pas grandi à la campagne ?
Non, j'ai grandi à Paris, je suis complètement parisienne. Et en fait, c'est vrai que dans Paris, les arbres ont quand même une place très importante. C'est un peu les poumons de notre ville, donc c'est vrai que les arbres ont leur place, mais finalement les feuilles, une fois qu'elles vont tomber au sol, elles n'ont plus leur place en ville. Donc
c'est vrai, à part qu'on aime bien parfois, moi c'est mon cas en tout cas, je trouve ça très, j'adore cette saison, shooter dans les feuilles, marcher dans les feuilles, j'adore ça, moi c'est un vrai plaisir. Mais bon, chacun, il y en a qui n'aiment pas du tout l'automne. Quel est votre processus créatif une fois que vous avez les feuilles à votre atelier?
Donc une fois que j'ai ramassé donc toutes ces feuilles, donc évidemment avec des gants, tout est stocké dans des grands sacs, dans mon atelier, dans ma cave, il y en a partout chez moi, dans mon atelier. En fait, j'ai commencé à vraiment récolter ces feuilles et à expérimenter cette matière, parce que je la trouvais trop belle, à la découper, à essayer de la broyer, essayer de trouver une colle naturelle ou une pâte. Ou alors en la mettant sous verre. Mais très vite, je me suis confrontée en fait à des problèmes de fragilité extrême, parce que ce sont des feuilles mortes, donc elles sont pas du tout souples. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller expérimenter, éprouver la matière. Et puis c'est une matière qui est sensible, on a envie de pouvoir la toucher, de la manipuler, de la sentir. Et donc c'est là qu'ont commencé mes recherches. Et grâce à un processus naturel, en fait, ces feuilles, elles sont trempées dans des bains pendant plusieurs mois, c'est assez long. Et grâce à ça, donc ça fait partie de mes recherches, elles vont, ça va leur redonner de la souplesse. Et ça va permettre qu'après, je puisse les découper, les coudre, les tisser et en faire de belles créations.
Comme quoi, par exemple, Alissa ?
Eh ben, des paravents, des luminaires, des œuvres murales, des suspensions. Là, j'aimerais... En fait, les usages sont infinis. J'aimerais aussi développer ça dans le domaine de la mode. Donc, j'ai plein d'idées et cette matière, elle m'inspire beaucoup.
Mais ça vieillit comment, en fait ? Parce que vous travaillez déjà une nature morte. Donc, comment ça vieillit une fois que c'est déjà mort ? Vous redonnez vie pour en faire quelque chose, mais ensuite, le troisième cycle, c'est quoi ?
Le troisième cycle, c'est juste de réintégrer et l'idée, c'est d'amener aussi la nature dans nos intérieurs. Et donc, grâce au processus de transformation, de pérenniser un petit peu cette matière. Et donc, actuellement, je suis encore aussi en phase de recherche pour développer un vernis naturel qui permettrait d'imperméabiliser les feuilles, de travailler les couleurs. Donc c'est encore, y a encore pas mal de recherches à faire, mais voilà.
Comment ça vous est venu cette idée de développer justement vos médiums artistiques à partir des feuilles mortes de la ville de Paris ?
Alors moi, j'ai toujours été passionnée par l'art et la nature. Mais déjà depuis que je suis toute petite, c'était vraiment les deux piliers, l'art et la nature. Comment les lier ensemble, comment les mêler, comment travailler avec le végétal. Et tout simplement, vraiment, c'est à l'automne, en marchant sur ces belles feuilles que j'ai commencé à en ramasser. Je me suis dit, je ne sais pas ce que je pourrais en faire, mais je vais les ramasser. Et j'ai commencé à en ramasser une, puis deux, à les stocker, à les mettre dans des livres, en faisant des recherches que du coup, c'est venu. Et aussi grâce à ma formation en design textile et matière, où là, j'ai pu apprendre toutes les techniques de tissage et textile, que ça m'a beaucoup inspirée, parce qu'en fait, ça peut s'apparenter, ça peut un petit peu avoir comme un cuir végétal. Et donc, le textile aussi, c'est lié entre la matière, le textile, le cuir, et essayer de lier tout ça, et en créant avec cette matière qui est naturelle.
Oui, vous avez fait les arts déco, non ?
Oui, c'est ça, les arts décoratifs pendant 5 ans en design textile.
Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Paris est l'une des capitales les plus boisées d'Europe en plus. Donc, vous êtes tombée au bon endroit.
Finalement. Ah ben oui, ça, il y en aura. Et puis, il y en aura toujours. Tous les ans, les feuilles tomberont. Et
tous les ans, vous les ramasserez. Voilà, c'est ça.
Voilà, et j'en ferai de nouvelles créations.
Mais en revanche, Alissa, ça vous limite un peu au niveau des couleurs, non ? Parce que vous êtes forcément, vous tournez autour du rouge, de l'orangé, du jaune, enfin des couleurs automnales finalement.
Oui, alors on a quand même une belle palette de couleurs qui s'offre à nous, mais ça reste des teintes très naturelles. On va pas avoir des couleurs vives, ça va rester très automnal. Et en fait, la couleur, ça reste vraiment en fonction de la sorte de la feuille. Il va y avoir différentes couleurs.
Alors moi, j'entends bien votre rapport à la nature, en fait, au végétal, mais il y a aussi dans votre travail, me semble-t-il, un rapport au temps, parce que vous ne pouvez travailler qu'en automne, finalement.
Exactement. Comparé à d'autres artistes qui auraient besoin de nouvelles matières premières, on peut le commander, on peut l'acheter, on l'a demain. Là, il y a un rapport au temps, la temporalité qui est extrêmement important et qui fait vraiment pleinement part de ma démarche et de mon projet que j'ai nommé Métamorphose. C'est vraiment le fait d'avoir de la patience, d'être dépendant des cycles, de la nature et de travailler en fait avec un peu en collaboration avec la nature et au rythme des saisons. Donc rien que le fait de devoir attendre tout ce laps de temps avant que ma matière première soit prête, ça rend la matière encore plus noble aussi, parce que c'est tellement long et tellement minutieux que du coup, j'essaye de tout utiliser, tout récupérer, toutes les chutes des feuilles, les tiges des feuilles. Ça devient vraiment une matière hyper précieuse pour moi et plus du tout un déchet sur lequel je marcherai dessus, étant donné tout le temps passé en préparation.
Ça vous apprend aussi, ou ça vous a appris, sans doute. Vous faites ça depuis combien de temps d'ailleurs, Alissa ? Je ne vous ai pas demandé votre âge.
Eh ben, j'ai 26 ans et ça fait un an et demi à peu près que je me suis lancée vraiment à temps plein en tant qu'indépendante sur ce projet-là. Et c'est vrai que tout est allé très 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 vite. Donc je suis trop contente, mais tout est allé super vite et plein de beaux projets passionnants en architecture, en design. C'est super.
Et ce projet, il vous apprend la patience aussi, j'imagine. Vous êtes patiente par nature ou pas ?
Alors, c'est très drôle que vous me posiez cette question-là, parce que je suis pas du tout patiente dans la vie de tous les jours. Mais alors, là, dans mon métier, dans ma pratique, il faut tellement de patience. Et pour le coup, dès que j'effectue un travail manuel ou dans la création, alors là, j'ai toute la patience qu'il faut, mais sinon dans la vie de tous les jours je suis pas patiente, donc c'est assez étonnant et même contradictoire. Mais c'est vrai que cette patience, en fait, dès qu'on crée quelque chose avec les mains, on a vraiment même ce côté méditatif qui va venir et donc qui va nous faire du bien, en fait. Tout simplement créer, ça fait du bien, amener créer avec la nature encore plus. Donc, en tout cas, moi, ça me fait du bien, ça me passionne.
Et justement, Alissa, qu'est-ce que vous avez découvert à travers votre rapport, votre contact au végétal ?
Eh ben, déjà, le fait que c'est unique, parce que chaque feuille, elle est unique. Il va y avoir des taches, des nervures, des choses magnifiques, mais qui sont uniques et qu'on ne peut pas reproduire. Et vraiment, on me demande souvent, mais où est-ce que tu trouves ton inspiration, l'inspiration, l'inspiration ? C'est clairement la nature. C'est la nature qui inspire. Et d'ailleurs, on s'inspire déjà pour tellement de choses d'elle que c'est vraiment... elle m'apprend énormément tous les jours. Et c'est hyper intéressant de travailler avec cette matière qui reste quand même une matière... comme je disais, assez sensible, où il y a des odeurs, il y a des textures, il y a des couleurs. J'ai l'impression qu'un peu tous mes sens sont assez éveillés.
Si vous aviez grandi à la campagne, est-ce que vous pensez que votre parcours d'artiste aurait été différent ?
Pas forcément, parce que je pense que cette passion... pour la nature, je l'ai toujours eu et peu importe le milieu dans lequel j'aurais grandi, je suis à la recherche de cette nature, mais je pense qu'on l'est tous plus ou moins et encore plus en ce moment de cette proximité avec la nature. Mais donc je pense que même en ayant grandi à la campagne, ben j'aurais eu envie de créer avec la nature, donc peut-être pas les feuilles mortes, mais en tout cas de créer peut-être avec des branches, du blé, des fleurs, mais en tout cas une matière végétale, c'est évident.
Vous allez rester une citadine, une parisienne ?
Oui, je suis très bien là. J'ai beau aimer la nature, mais j'ai un petit paradis, j'ai la chance d'avoir un petit paradis avec un très bel atelier, un espace de verdure, et donc j'aime Paris.
Où est-ce qu'on vous trouve, Alissa, si on a envie de regarder à quoi ressemblent vos œuvres ou vos travaux ?
Alors, vous pouvez aller sur Instagram. Mon nom, c'est Alissa Joss, Alysa Joss, tiré du bas, création. Et donc, sur Instagram, j'essaye vraiment de montrer au maximum toute ma démarche, donc vraiment... du début jusqu'à la fin, tout le process ou de la récolte jusqu'à la transformation et après toutes les créations aussi qu'on peut en faire en transparence, en luminaire, en œuvre murale avec des tiges tissées, cousues, toutes sortes de choses. Voilà, sur Instagram.
Est-ce que vous intervenez dans les écoles ? Parce que quand je vous écoute, j'ai la sensation, on a fait des herbiers quand on était enfant ou avec nos enfants. C'est une matière ou un atelier qu'on pourrait apprendre aux enfants, non ? Comme pour leur donner encore plus envie de respecter la nature.
Eh bien, tout à fait. Pour les enfants et même pour les adultes. En effet, de temps en temps, je réalise quelques ateliers de création où on travaille avec ce support-là et on travaille avec la nature pour les petits et pour les grands. Parce que l'idée, c'est vraiment d'inciter aussi un peu à une prise de conscience et aussi de rendre hommage à cette belle saison qu'est l'automne. Mais en tout cas, de pouvoir dire qu'on peut créer avec tout.
Et vos parents, ils faisaient quoi, Alissa ? C'est pour savoir si ce sont eux qui vous ont transmis cet amour des arbres, peut-être
oui,
de Paris aussi d'ailleurs.
Oui. Alors j'ai été beaucoup inspirée par mes parents qui ont beaucoup voyagé, qui aiment beaucoup la nature et aussi beaucoup l'art. Et donc un mix, ils ont fait plein de choses passionnantes. L'apiculture, des bijoux fantaisie, à l'hôtellerie. Il y a eu un joli mix entrepreneurial, en tout cas, qui m'a bien inspirée. Ils m'ont toujours soutenue dans ma démarche et dans ce que je voulais faire. Donc, je leur en remercie infiniment.
Et ils vont dans le sens de notre antenne hein, et de la famille Europe 1 avec Isabelle Morizet qui a son émission qui s'appelle « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Donc visiblement, vos parents, ils incarnent bien ces valeurs-là. « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ».
Exactement.
Voilà.
Tout est possible et quand on veut, on peut. Et il n'y a pas qu'un seul chemin et une seule case. Voilà.
Il faut s'autoriser. Merci beaucoup, beaucoup, Alissa, de nous avoir fait rêver ce soir. Et j'irai voir, dès la fin de l'émission, ce que vous proposez, parce que ça m'intrigue beaucoup, beaucoup. Un grand, grand merci à vous, Alissa. Belle continuation à vous. Merci d'avoir témoigné
merci
ce soir
vous,
dans la libre
Valérie.
Antenne d'Europe 1. Au revoir.
Au revoir.
Pour découvrir d'autres témoignages de la Libre Antenne, on vous donne rendez-vous sur le site et l'application Europe 1. Et si vous souhaitez écouter l'émission en direct ou simplement intervenir, parler de vos expériences de vie, on vous attend ce soir à partir de 22h. Vous pourrez échanger avec Olivier Delacroix. Le numéro, vous le connaissez, 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous laisser un message dès maintenant et Europe 1 vous rappellera. À suivre, Sophie et les copains avec Sophie d'avant et sa bande pour une émission spéciale musique à redécouvrir. Et puisqu'on en parle de la musique, justement, voici la chanteuse britannique Lou Saint avec Sweet Tooth sur Europe 1.
I tried once, twice, but I don't know how. How do I get your taste out of my mouth? You pick me up whenever I'm down. But when the highway's off, I'm still on the ground. Why are all the bad things that make you feel good things? They happen, never fix things. Oh, why are all the bad things that make you feel nice things? They never think twice. When you're around, I'm lost in a candy shop. And I tell myself it's gonna last when I know it's not. Why are all the bad things that make you feel good things? They have but never fix things. Whoa. Why are all the bad things that make you feel nice things? They never think.
Sensation vocale du moment, Lou Saint avec Sweet Tooth sur Europe 1. Et c'est sur le thème de la musique justement que la semaine a débuté pour Sophie Davant et sa bande de copains. C'est l'heure de redécouvrir l'émission de ce lundi.
Europe 1, Sophie, les copains.
Sophie Davant.
Quel bonheur de vous retrouver en direct. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous invitons chez vous, dans votre voiture, pour 2 heures pleines de rebondissements, de culture générale, d'infos insolites, d'invités de marque, avec avec aujourd'hui une émission spéciale musique. On sait que vous aimez la musique, alors on a décidé de la mettre à l'honneur cet après-midi. Classique, rock, jazz, disco, chansons françaises, années 80, 90, 2000. Bref, on va jouer, chanter ensemble avec une invitée qui connaît bien la chanson, c'est Nicoletta. Rejoindra à 17h Nicoletta. La règle du jeu reste la même. Vous trouvez 4 bonnes réponses et vous tenterez un jackpot qui est à 1100 euros. Sophie jouera avec nous dans quelques instants. Sophie qui était déjà là avant nos vacances et qui a déjà trouvé 3 bonnes réponses. Les copains qui sont là aujourd'hui pour cette spéciale musique, une muse, musicienne, une acrobate des vocalises virtuoses du piano. Elle n'oublie jamais les paroles et ne rate pas une occasion de nous faire rire, c'est Magali Ripoll.
Vous aussi, vous me faites rire. Bonjour Sophie, bonjour. Salut les copains.
On dirait que l'humour, c'est comme la musique, tout est une question de rythme et lui, il l'a dans la peau, sauf lorsqu'il danse, paraît-il. C'est notre virtuose de la vanne, Jean-Luc Lemoyne.
Ça commence bien, bonjour Sophie.
Mais c'est dommage, hein, y a eu ce petit truc sur le rythme, ça m'a un peu blessé.
Oui, c'est vrai. Et puis pour la plupart du genre, c'est un grand journaliste, un animateur incontournable de la radio et de la télé. Mais aujourd'hui, c'est en sa qualité de chanteur du générique de Pac-Man. Oui. Pour l'accueil, c'est William Lemergy.
Mais j'espère bien qu'on va accueillir un peu. J'ai peur.
Et alors, vous souvenez toujours des paroles? Parce que, attention, Magali Ripoll est là.
Rends comme un ballon et tout jeune qu'un citron, c'est les Pac-Man. Il tourne, il
roule. Oui, mais là, c'est un peu en décalage.
Oui, et alors?
C'est dommage.
Ah, en tout cas, il est bien accueilli, William, visiblement, le pauvre.
Bah oui, mais il est que... Bonjour, copine.
En tout cas,
je suis content de venir vous voir.
Oui,
c'est
bah,
beau,
nous,
mais c'est loin, comme
nous
disait.
Nous aussi, on est content de vous accueillir. On est en train de former une sorte de club d'Europe 1 hein, avec des animateurs d'Europe 1. Comment?
Non, je dis, c'est Jacques Chirac qui disait ça. C'est beau, mais c'est loin.
Oui,
parce
c'est
que
beau,
mon bureau est à environ 24 secondes.
C'est vrai.
D'ici.
Celui de Jean-Luc aussi.
Ouais. Oui, enfin, moi, ouais, c'est un tabouret, c'est pas vraiment un bureau. Hein.
À vous aussi.
Oui, exactement.
Une info du jour, les amis, Magali.
Eh bien, écoutez, pour cette spéciale musique, je vous propose d'écouter The Voice, à savoir Frank Sinatra. Fly me to the moon. On s'en lasse pas. On se lasse pas de la voix de Nicoletta et de celle de Sinatra non plus, car il va avoir son biopic réalisé par Martin Scorsese.
Wow.
Alors Martin Scorsese travaille sur le développement de ce projet. Il avait déjà tenté l'aventure en 2017, mais il n'avait pas obtenu les autorisations des ayants droit. Et alors serait pressenti pour le rôle de Frank Sinatra, Leonardo DiCaprio. Alors là, j'ai hâte.
Pas
j'ai
mal.
Hâte parce que apparemment le biopic va être vraiment axé sur la période de la vie du chanteur. Lors de laquelle il est revenu sur le devant de la scène après une traversée du désert et aussi sur ses amours tumultueuses et passionnées avec Ava Gardner qui devrait être incarnée par Jennifer Lawrence. Donc là, je pense que ça va être plus qu'un biopic, ça va piquer, ça va être un énorme film.
Moi, j'ai vu un biopic sur Elton John, là, qui est pas mal.
Rocketman, hein, ouais. C'est magnifique,
Rocketman. C'est magnifique. Ouais. Jean-Luc.
Alors, moi, je voudrais vous parler d'une initiative bien de notre époque. Quand vous êtes au restaurant, j'ai une question. Est-ce que vous savez beaucoup de votre téléphone portable?
Non, jamais.
Dites la vérité.
Non, tout le monde.
Ça dépend. Non, ça dépend avec qui je suis au restaurant.
Non, moi je le laisse à l'entrée comme en prison. Vous laissez le.
Eh ben,
le
écoutez, il y a quelqu'un qui a les mêmes idées que vous, puisque là, je vous emmène à Vérone. Et là, c'est dans un restaurant qui s'appelle El Condominio. Et bien là-bas, pour ceux qui laissent leur téléphone à l'entrée, comme William, eh ben ils offrent une bouteille de vin. Pour essayer de créer du lien entre les gens qui se parlent au lieu de regarder leur téléphone. Et je trouve que c'est une super idée parce que moi, franchement, si je vais au restaurant avec ma compagne, qu'on me donne une bouteille de vin, je laisse mon téléphone. Et si on rajoute un billet, je lui parle.
Et on t'a parlé souvent? Non.
Non, très peu, très très peu.
C'est ça le problème.
Et oui. William, une petite info du jour.
Je me marre déjà. Je savais que c'était très très sympa cette émission. Je vais vous parler du Titanic.
Ouais.
Et c'était... Ben c'est pas drôle. Hein.
Non,
c'est bien pour ça que je vous dis ça. Mais ça, non, en fait, ça tombe le 12... on est le 22.
Qu'est-ce qui tombe, le bateau?
Non, pas le bateau, lui, il y a longtemps.
Ouais.
Mais c'était le 14 avril, c'était un anniversaire, figurez-vous, puisqu'il a coulé le 14 avril 1912. Et là, il y a quelques jours, il y a eu une vente aux enchères d'une photo qui a été prise 2 jours après le naufrage du Titanic.
Une photo de la mer, donc.
Non.
Parce qu'il n'y avait plus rien.
Une photo.
S'ils avaient coulé.
Une photo de l'iceberg assassin.
Ah bon?
Lui. Il y en a eu 4 photos dans l'histoire, et celle-ci est probablement la plus vraie des 4. Pourquoi ? Parce qu'ils ont retrouvé une trace de peinture en bordure de l'iceberg.
Et elle a été vendue ?
Et oui, elle a été vendue, mais c'est pas loin de 10 000 euros. Ce qui est formidable, c'est que le type qui a fait la photo, il est venu avec un bateau qui a été missionné pour ça. Alors, quel est le bateau? Un bateau qui traînait dans le coin, qui bossait, quoi. Il mettait des câbles. On lui dit, toi, tu vas aller chercher les cadavres. Mmh. 2 jours plus tard. Et le mec, il arrive, il est ordonnateur de pompes funèbres, tout d'un coup. Mmh. Ce que je ne savais pas, c'est pour ça que mon histoire est très marrante, c'est qu'il récupérait les cadavres. Et ce qui est épouvantable, c'est que le patron de la compagnie a dit, attendez, vous récupérez les cadavres de première et de deuxième classe. Les autres, vous ne les touchez pas. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Non, c'est
vrai.
C'est bien cette anecdote pour démarrer une émission spéciale de musique.
Je vous disais, moi, j'ai envie d'avoir...
Un peu légèreté, on peut compter sur William.
Écoutez, moi, je quitte le navire.
C'est bien. Et je vous ai bien plombé.
Ah non, tout va bien. Tout va bien.
Sophie, bonjour Sophie.
J'en ai d'autres,
hein, moi. Non, ça va aller. Sophie, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Sophie.
Comment ça va,
arrêtez
Sophie
de rire, Sophie, arrêtez. Je sais que c'est drôle.
Vous allez bien, Sophie?
Très bien, et vous?
Ben oui, pas mal. Écoutez, après quelques jours de repos, ça va plutôt bien. Vous jouiez avec nous il y a de cela une semaine et vous avez déjà trouvé 3 bonnes réponses. Prête pour tenter un jackpot à 1100 euros. Encore une bonne réponse, hein?
Oui, soyons joueurs. C'est la journée.
Bon, rappelez-nous ce que vous faites dans la vie.
Moi, je travaille dans la promotion immobilière.
Très bien. Et vous avez des enfants?
Oui.
Oui, et vous êtes une sportive?
Oui, j'essaye. Avec l'âge, ça se calme un peu, mais oui, normalement, oui.
Et on vous appelle la fée clochette, parce que vous êtes du genre à vous rendre sympathique auprès de vos proches.
J'aimerais pas dire ça... Enfin, je dirais pas sympathique, ça serait présomptueux, mais on en parlait avec Augustine la semaine dernière, effectivement, ouais. Galiana qui était chez vous. Je me nourris en aidant les autres, en fait. C'est en vieillissant que j'ai compris comment je fonctionnais. On se connaît pas au début, à la fin, on se connaît mieux.